Et ce matin, j'ai la responsabilité de d'apporter la parole du Seigneur. Et j'avoue que je suis le premier concerné. Parce que c'est en travaillant et en méditant la parole qu'on se rend compte que on est d'abord les premiers à qui la parole s'adresse. Et ce matin, j'ai choisi de parler sur un thème sur un point précis. Mais avant toute chose, je me suis intéressé au livre de l'épître de Paul à Tite. On sait tous que Tite était un grec et c'était un jeune homme plein de zèle pour le Seigneur et très investi dans la vie et le développement de l'Église. Et plusieurs passages dans la parole le montrent. Et Tite était aussi un disciple et compagnon de voyage de Paul. Il était également son collaborateur de confiance qui l'avait aidé à traverser de nombreuses crises. Et c'est tout logiquement que Paul le missionnait à remettre de l'ordre dans l'église de Crète. Cette église était connue pour ses travers, sa cri-cri, sa cupidité, la violence et l'immoralité sexuelle. Et cette église était aussi tombée sous l'emprise des chefs crétois qui se disaient chrétiens, mais qui dégradaient sa réputation avec des pratiques encore très liées aux lois et à plusieurs considérations erronées sur les aliments. C'est en ce moment-là la pensée qui dominait, les considérations qui régnaient un peu plus, étaient que les choses impures venaient de l'extérieur. Les choses impures, ça appartenait à d'autres, à l'environnement, mais jamais en nous. Ça venait donc de l'extérieur et que le seul moyen pour pouvoir s'en séparer, c'était au travers des rites et même des œuvres. Et on a l'exemple dans la parole, la circoncision, l'abstention. Il restait un peu, il restait vraiment légaliste sur ce côté-là. Et voilà, la sainteté était liée à l'observation minutieuse de ces rites, de ces habitudes. Mais tout ceci constituait un danger pour l'Église. Et Paul l'avait noté. C'était un piège de servitude qui était posé sur les consciences. Une exposition à tout genre de superstition. Les gens se livraient à la superstition. Un joug posé sur les épaules des croyants. Et un voile d'opposition également à la connaissance véritable du Seigneur. Cette pensée, cette considération ambiante contrastait clairement avec l'enseignement du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, verset 11, le Seigneur déclare: Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Autrement dit, ce n'est pas ce qui est en dehors de nous qui nous souille, mais tout ce qui est en dedans de nous, dont nous portons nous-mêmes les gènes de notre propre souillure. Nous sommes les producteurs, l'usine de la souillure. On va prier un instant. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cet enseignement. Toi-même, tu juges de la pertinence et de l'importance pour ton peuple ce matin. Alors, parle, Seigneur, et révèle dans le cœur de chacun ce que toi tu désires. Et conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On va lire l'épître de Paul à Tite. C'est ainsi, au chapitre 1er. Tu l'as en entier? Ah, d'accord. Ah, ben, super. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. J'étais laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discours creux et trompeurs, surtout parmi les incirconcis. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, le propre prophète, a dit « L'écris-toi, toujours menteur, de méchants bêtes, de goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Bien, on va davantage s'attarder sur le verset 15. C'est ce verset-là qui m'a le plus parlé. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. De manière un peu plus simplifiée, on peut dire que la pureté est une qualité exigée pour entrer en relation avec Dieu. C'est une qualité exigée lorsqu'on veut entrer en relation avec Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, il est surtout question de la pureté intérieure. Ça contraste avec la pureté extérieure qu'on avait dans l'Ancienne Alliance. La conscience doit être purifiée. Par ce verset, nous pouvons comprendre que nous sommes la principale source de notre propre impureté. Nous en sommes les auteurs. L'impureté se produit en nous, dans notre usine. Le cœur de l'homme, notre cœur, lorsqu'il n'est pas transformé, quelles que soient les époques, quel que soit l'âge ou les lieux, est animé par le même élément qui est le péché. Le péché est tout ce qui nous met à la marge du plan de Dieu pour notre vie. Il nous sépare. Pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, non seulement en eux, mais également à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de pouvoir voir la pureté qui les entoure. Leur conscience n'appréhende pas de manière véritable l'aspect des choses. Leur considération est fausse. Les choses justes, légitimes et bonnes sont transformées en péché, parce que le péché est un puissant agent de corruption, de détournement et d'aveuglement. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on prend les lois, même les lois que nous faisons, que l'Assemblée vote, on s'accorde parfois à dire « la loi, elle est bonne ». Mais l'usage pose parfois problème. Il s'agit qu'on a la capacité de pouvoir s'accorder à dire « telle chose est bonne », mais son utilisation pose problème. Ça veut dire qu'en nous, on n'a pas cette capacité à pouvoir même utiliser ce qui est bien. On transforme les bonnes choses en mauvaises. Le constat que nous pouvons également faire à travers ce verset, c'est que notre conscience, notre entendement et notre compréhension sont exposés à de multiples dépravations et pollués par un environnement où la puissance du péché est fortement enracinée et dissimulée. Étant souillés, nous sommes fortement exposés à l'influence des choses impures. Nous prenons plaisir de manière volontaire ou non à ce qui est contraire à la norme de la parole de Dieu. Et parce que notre conscience est détournée, nous accueillons la latitude de justifier le mal et d'y prendre plaisir parfois. Nous le minimisons même, nous le tolérons, nous le concevons, allant même parfois jusqu'à semer la confusion en utilisant la parole de Dieu. Et je me rappelle toujours, dans mon groupe de jeunes, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, la femme de mon pasteur aimait toujours nous répéter, « Ah ben vous savez, tout est pur pour ceux qui sont purs. » J'avoue que je ne saisissais pas vraiment la profondeur de ce qu'elle disait. Elle avait beau prendre des exemples, un peu comme Michel le fait souvent de manière terre à terre. Elle nous disait, « Regardez les élèves parfois. au lieu de passer du temps à lire, vont plutôt consacrer ce temps à vouloir préparer des notes pour tricher. Ils vont plutôt réfléchir à comment contourner le système pour arriver à leur fin. Regardez aussi, elle nous prenait l'exemple du voleur. Il planifie bien son coup, il va aller voler. Et quand on va lui demander, il va dire, oh, je suis tombé dans le péché. Il n'est pas tombé, ce n'est pas accidentel. Il a eu le temps de planifier, de monter les plans et d'y aller et d'avoir ce qu'il voulait. Il en est de même pour l'élève. Et elle nous disait aussi une fois qu'il y a quelqu'un qui a justifié un peu ses actes en lui sortant que, vous savez, dans la parole, c'est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ah bon? Dans la parole, ça sort tout ça? Vous pouvez me donner la référence? Moi, je sais que c'est écrit dans la parole. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et la meilleure façon de s'aider, c'était d'engager des initiatives, même si elles sont mauvaises. Et ensuite, le ciel, pour lui, ça veut dire que c'est Dieu qui l'aide. Et s'il échoue, tant pis. S'il réussit, Dieu était en accord avec lui. Il a réussi. Et voilà comment on arrive parfois à tordre la parole, à s'aimer la confusion. Et j'avoue que plusieurs s'engouffrent là-dedans. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est facile à croire, c'est facile à gober. Et puis, tu te dis, le ciel, notre Père qui est aux cieux, ça vient vraiment de lui. Et le piège. Déjà, pour l'indiquer aussi dans 2 Timothée 3, verset 5, et je commence un peu au début, « Car les hommes seront irreligieux, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ayant l'apparence, mais tout en reniant ce qui en fait la force. Et même s'il arrive que notre conscience parvienne à produire ce qui est bien, son utilisation est hélas détournée, comme nous venons de le voir avec l'exemple des lois. En général, celui qui a le cœur souillé n'a pas besoin de sortir de lui-même pour trouver ce qui est impur, puisqu'il en a déjà en lui. Mais parfois, il est commode de le faire afin de pouvoir oublier ou de pouvoir couvrir son impureté. On sait tous qui étaient les experts en la matière, les pharisiens. Et le Seigneur lui-même le décrit dans Matthieu 23, versets 25 à 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » C'est l'intérieur. Tout va de l'intérieur. Il ne faut pas se tromper d'action. Il ne faut pas se tromper de cheminement. Il est aussi très important de savoir que notre état d'impureté a des conséquences très graves pour nous, car elle nous pollue déjà, et elle pollue aussi notre entourage. Elle nous prive de nombreux biens que le Seigneur a prédisposés pour nous ici, et pire encore, elle nous prive éternellement de sa présence. Comme le dit Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. » Il est donc impératif que notre conscience redevienne pure devant Dieu. Et ceci n'est possible qu'à la condition que nous passions par l'œuvre de la croix et la foi qui sanctifie le cœur. L'incrédulité laisse l'homme dans sa souillure et l'expose aussi à la souillure. Tâchons de ne pas l'être. Hébreux 3, verset 12 dit « Prenez garde, frère, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un cœur méchant et incrédule. Prenez garde. » Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. La pureté passe par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Les choses que Dieu a créées revêtent en soi un caractère de pureté. Mais hélas, l'usage que l'homme en fait ne le purifie pas forcément. On a vu tout à l'heure que dans l'ancienne alliance, les moyens utilisés pour se purifier parfois, c'était le fait de se laver, de laver ses vêtements, d'effectuer des sacrifices ou des cérémonies. Et aussi, parfois, le Seigneur lui demandait de se tourner vers lui. La souillure donc se trouve en chacun de, au-dedans de chacun de nous, dans notre cœur, notre entendement et notre conscience. C'est là où la purification doit agir. Tant que nous sommes dans notre condition d'homme naturel, nous ne percevons pas les choses dans leur état de pureté tel que le Créateur les a conçues. Et de même, nous n'utilisons rien de manière pure, à moins de le recevoir par la main du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous courons le risque, tout en demeurant dans notre impureté, de souiller aussi à notre tour ce qui nous environne. Si nous voulons faire autrement, il est absolu de considérer, de reconnaître et d'accepter le péché et la grâce. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous purifier. Et si nous parvenons à la pureté et le sang, ce n'est ni en nous-mêmes, ni à travers notre propre chef que cela est possible, mais en vertu de l'œuvre de Christ et sous l'action du Saint-Esprit. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore cette purification. Cette pureté, Dieu seul est capable de nous la donner et de l'estimer, car il en est son auteur. Ce n'est ni une proclamation de notre part, ce n'est pas parce qu'on va dire « je suis pur » que cela arrive, non. Ce n'est ni une quelconque apparence. On a vu tout à l'heure que malgré notre apparence de piété, ça contrastait largement avec nos actions. Ce n'est pas cela qui peut le justifier. Et nos efforts encore moins ne peuvent véritablement rendre témoignage de notre état intérieur. Mais c'est lorsque nous entrons en contact avec celui qui est pur que cela est possible. Et Jésus seul l'est. Et il n'est pas influencé par ce qui est impur. Donc ce n'est qu'à travers lui que nous obtenons notre pureté. Mais regardons même à son exemple. Regardons toutes les personnes avec qui il était en contact lorsqu'il était là. Des personnes impures, adultères, des personnes malades. Mais aucune de ces personnes n'avait l'influence sur lui. Au contraire, son état de pureté avait l'influence sur ces personnes-là. Et il pouvait obtenir la purification, le pardon des péchés. Parce qu'il y avait cette influence qui se dégageait. C'est notre état de pureté aussi qui influence ce qui est à l'extérieur. Il avait donc de l'influence sur ces personnes-là et il pouvait agir merveilleusement dans de nombreuses vies. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, le Seigneur nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui seul aujourd'hui peut nous rendre purs et rendre nos œuvres que nous produisons agréables et cohérentes avec notre transformation intérieure. » Par le Seigneur, nous devons résister à toute forme de souillure et faire obstacle à toute forme d'impureté et à leur source par notre solide doctrine fondée sur la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9 nous dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est tout simplement en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Les actions honteuses, les reproches tels qu'on les retrouve parfois chez ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent être loin de nous. Et aussi, également, il faut faire bon usage de sa pureté. Faire bon usage de sa pureté, c'est se garder soi-même et préserver l'autre. Luc 11, verset 41 dit, « Donnez plutôt en honneur ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. » Et ce verset aussi cité par Paul dans Romains 14, verset 20, « Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement, devenir un sujet de scandale pour l'autre. Notre pureté nous oblige. Notre pureté nous responsabilise aussi. On doit prendre soin de l'autre. Dans ce verset nous dit que pour celui qui est purifié par la foi, tout est pur, car il se plaît dans ce qui est pur. Il a des pensées et des paroles pures veillant à ne rien souiller de ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Veillant à ne rien souiller de ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Bien évidemment, il n'est pas question pour moi ici de dire qu'il faut décréter par nous-mêmes que tout est pur en soi ou pas. Mais si nous devons faire usage des choses que le Seigneur place près de nous, nous devons le faire avec discernement, après avoir éprouvé leur provenance et leur pertinence, mais sans au préalable juger ou forcément supposer leur impureté. Si nous sommes justes et purs, alors toutes choses seront pures pour nous, et même si ce qui n'est pas pur a une grande influence de souillure, notre sainteté intérieure nous préserve de l'infection. Notre sainteté intérieure nous préserve de cette infection, de cette influence que l'extérieur peut avoir sur nous. Également, il est important pour moi de mentionner qu'il ne faut pas qu'on abuse de cette parole en l'appliquant à l'usage et à la jouissance de toutes les choses dont on veut faire l'objet de notre satisfaction. Parce que parfois, on se laisse aller. Ben, tout est pur, donc je peux me permettre. Regardons bien ce que 1 Corinthiens 10, verset 23 nous dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On connaît tous un peu les dérives qu'on peut s'accorder lorsqu'on trouve plaisir en quelque chose. Oh, tout est pur, donc je peux me laisser aller. Tout m'est permis, pas de limite. Mais non, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Faut pas transformer la parole. Faut pas en faire un usage uniquement pour une satisfaction des envies qui sont parfois contraires aussi à la volonté de Dieu. Lorsque j'étais au lycée, ça c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué, nous avions une œuvre littéraire au programme. Et cette œuvre était de Jean-Paul Sartre. On connaît un peu tous cet auteur-là. Et cette œuvre-là, c'était Les mains sales. Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Et c'est une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre-là, il fait se côtoyer de nombreuses idéologies. On a des personnages qui sont réalistes, d'autres qui sont un peu pragmatiques, d'autres qui sont un peu réalistes ou idéalistes aussi. Et dans l'un des dialogues dans lequel il met deux personnages en exergue, il considère un peu la pureté comme une idée de fakir et de moine. C'est ce qu'il dit. Et c'est aussi un alibi qu'utilisent les intellectuels bourgeois pour ne rien faire, pour ne pas se mettre en action. Voilà, la pureté, c'est une idée de fakir et de moine, un alibi, un moyen qu'utilisent certains pour ne pas se mettre en action parce qu'ils veulent préserver leur pureté. Ils ne veulent pas, voilà, perdre un peu cette pureté-là. Bien évidemment, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que la pureté soit juste une idée. Parce que pour lui, c'est une idée, voilà, que certains fakirs, les intellectuels et les hommes religieux appliquent. Mais ce n'est pas simplement une idée, car le soutenir revient à dire qu'elle est une représentation abstraite, une conception imaginaire comme cela, l'objet de notre pensée ou de notre opinion. Mais non. Nous venons de voir que la pureté est bel et bien une réalité, une qualité authentique que l'on peut recevoir de Dieu. Tout comme la liberté, quand le Père nous dit, quand le Seigneur nous dit, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais ce n'est pas une idée. Nous sommes réellement libres parce qu'il nous affranchit. C'est sa parole et sa promesse. Ou même encore lorsqu'il nous dit dans 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Peut-on dire que c'est une idée? Non. Si la parole nous dit nous sommes purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus et que ce sang a vraiment coulé à la croix, ça veut dire que nous l'obtenons de Dieu. Ce n'est pas une idée. Il faut vraiment faire cette séparation claire et nette. Et parce que si on reste dans la perspective que c'est une idée, on n'engage pas cet élan pour recevoir. Or, croire que c'est une réalité, on engage cet élan et on va recevoir sa pureté. En revanche, pour ce qui est du fait de ne rien vouloir faire pour entreprendre, de ne rien entreprendre, pardon, pour par souci de préserver sa pureté, ce constat s'observe aussi souvent dans l'Église. On préfère bien sa chaise assise, puisque le Seigneur m'a purifié, je ne veux plus me frotter à gauche et à droite. Il vaut mieux que je la garde, hein, parce qu'il va revenir bientôt. C'est une bonne chose. On sait tous que les initiatives nous mettent au pied du mur. Les responsabilités nous exposent. Certaines fonctions révèlent à la lumière notre caractère et nos faiblesses. Eh oui. Certaines responsabilités révèlent nos caractères et nos faiblesses dans la maison du Seigneur. C'est alors que nous devenons un point d'attention. On est sujet à moins de tolérance. Tant qu'on est assis et qu'on n'entreprend rien, on est assez tolérant, on ne connaît pas, on ne réagit pas. Mais lorsqu'on est là dans des responsabilités, on reçoit moins de tolérance des uns et des autres. On prend des coups. Ouais, c'est pas facile. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas en voulant préserver ma pureté, en usant d'une prudence radicale, que je vais forcément y arriver. Mais c'est tout simplement en s'abandonnant entre les mains du Seigneur et en accomplissant sa volonté. Et ce faisant, il nous épure au quotidien. Il nous épure au fil du temps, afin que nous devenions des joyaux pour lui. Ce n'est pas par crainte de souillure que je vais éviter ou que je vais refuser de m'engager, de me lever. Il me semble intéressant, de par ma propre expérience aussi, de marquer que trop souvent, nous avons tendance à aborder les choses par la négative. Essayons autant que possible d'affirmer l'importance de la pureté au lieu de mettre l'accent sur l'impureté. Il en est de même de la sanctification et du péché. En même temps que nous condamnons le péché, nous devons sans cesse rappeler que ce que Dieu a créé est bon et que son désir est que nous fassions bon usage pour notre bien et pour le bien de notre entourage. Il y a donc une grande importance de manifester en permanence des élans d'amour les uns pour les autres. 1 Pierre 1, verset 22 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Nous pouvons également nous demander quel usage nous faisons de la pureté que le Seigneur nous accorde. Mais quel usage tu fais de la pureté que le Seigneur t'accorde? Si la pureté que nous obtenons par grâce est une chose excellente, quel marqueur cela a-t-elle sur notre vie? Quel marqueur? Et quelle influence avons-nous sur notre environnement? Quel regard portons-nous sur l'autre? Quelle analyse faisons-nous des situations et des événements? Il y en a pour qui, quelle que soit la qualité véridique d'un événement, ils vont toujours, ou bien d'une situation, ils vont toujours trouver un moyen de détourner, de transformer, tout simplement parce que lorsqu'on est impur, on est capable de voir la pureté qui est à l'extérieur. Mais nous qui avons la pureté, quelle influence avons-nous sur notre environnement et quel regard donc portons-nous sur l'autre ou sur les situations et les événements qui nous entourent? Quelle appréciation avons-nous sur les choses aussi? La parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes encore dans ce monde avec toutes ses composantes. On les connaît, ses difficultés, ses échecs, ses scandales aussi. Mais est-ce que nous laissons le tableau noir obscurcir notre pureté? Ou alors est-ce que nous nous accordons la possibilité de voir différemment à travers le prisme de la pureté qui est en nous? Dans le psaume 39, verset 9, le psalmiste dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est par la pureté de Dieu que nous pouvons aussi voir la pureté de Dieu. Il peut être facile et même confortable de conditionner notre conscience à considérer ce qui satisfait notre envie et malheureusement de passer à côté de ce que le Seigneur souhaite que nous voyions. Moi, j'ai été interpellé ces dernières semaines, et je le suis encore, par tous les événements que nous avons traversés et que nous sommes en train de vouloir tourner la page. Je me suis rendu compte que je franchissais très facilement et très aisément les frontières du jugement. Que je devenais prompt à considérer le mal qui cherchait à s'imposer à ma vie, à ma conscience. C'est alors que je souffrais. J'endurais un peu tout ce qu'on pouvait vivre. C'était compliqué. Mais je peux aussi rendre gloire à Dieu parce que par son discernement et par son esprit, c'est en traversant des situations pareilles qu'on peut apprécier différemment les choses. Amen. On peut apprécier différemment les choses, on peut les considérer aussi différemment et de manière spirituelle. On fait face à la réalité. La capacité de la pureté et du Saint-Esprit aussi en moi me permet de ne pas me laisser emporter et de ne pas être ébranlé. Parce que la pureté en nous nous préserve et nous aide à tenir ferme face aux difficultés, face aux situations. Si nous allons jusqu'au bout de ce livre de Tite, cette lettre au regard de Paul est très clairement une stratégie missionnaire qui consiste à faire des églises des agents de transformation au sein de la communauté où elles sont implantées. Cela n'arrivera pas en générant constamment des chocs de culture pour Paul ou en assimilant au mode de vie des Crétois. Paul invite donc les chrétiens à prendre part de manière avisée à la culture crétoise. Ils doivent adhérer à ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Apprendre à vivre en paix avec les autres tout en restant dévoués à Jésus. Paul encourage Tite à montrer à quel point la bonne nouvelle de Jésus et la puissance du Saint-Esprit sont capables de transformer la culture crétoise de l'intérieur. Car c'est de l'intérieur que vient ce qui n'est pas pur. Je pense qu'il est aussi important de ne pas perdre de vue nos engagements. Nous traversons, certes, une situation difficile, mais il est important de ne pas perdre nos engagements. Nous devons nous mobiliser dans nos différents chantiers relatifs à notre vision, à notre plan d'action. Le Seigneur, en nous guérissant, nous appelle à présent à être tous opérationnels, à nous lever et à agir. Son Saint-Esprit est là pour nous unir, nous rendre capables, nous équiper et surtout nous revêtir de cette pureté qui changera notre perception, notre considération et nous donnera d'être des agents entre ses mains pour faire vivre notre Église et pour la transformation culturelle et sociétale de notre cité ou bien de notre région. Alors, comme le dit 1 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses. » Dans le psaume 51, verset 12, le psalmiste disait, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu est le créateur de cœurs purs. Et des cœurs qui se livrent à lui. » Pour ma part, c'est ce que je souhaite expérimenter ce matin. Et c'est la prière que je vais élever. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mais qu'en est-il de toi? Peut-être les événements de ces dernières semaines t'ont affecté. Je sais qu'il y en a qui ont répandu des larmes devant Dieu, qui ont manifesté de la tristesse, de l'angoisse, qui ont été vraiment touchés. Est-ce que tes événements continuent de t'affecter et t'empêchent? Est-ce que tu as besoin ce matin du toucher de Dieu pour t'en remettre? Peut-être, alors qu'on est en train de se dire, c'est le moment de se lever tous, d'être opérationnel, de sonder le Seigneur et de voir dans quel domaine on va agir afin de pouvoir se lever véritablement et de saisir cette occasion pour le faire. Peut-être tu veux te lever pour être opérationnel et tu trouves que les dispositions en toi parce que c'est en toi que cela se produit, ne sont pas encore remplies. Ces dispositions ne sont pas remplies. Peut-être l'influence externe pèse encore trop sur ton état intérieur. C'est possible. Mais nous pouvons faire quelque chose ce matin. Nous pouvons tous crier à Dieu. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur pur. Et pour ma part, je vais me tenir là, debout. Et je vais élever cette prière. Et si vraiment c'est le désir de ton cœur aussi, si c'est ce dont tu aspires, tu as l'occasion aussi de pouvoir te lever de là où tu es. Et je vais inviter le pasteur à prier pour nous.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, c'est la prière de nous tous qui sommes devant toi. Parce que Seigneur, nous sommes tous pécheurs, mais des pécheurs sauvés par grâce. Parce que Seigneur, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est par ta mort que nous avons reçu la vie, parce que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et Seigneur, ce matin, c'est vrai que nous avons passé par des moments difficiles dans cette église, mais Seigneur, tu étais là, et tu as un plan, parce que ce n'est pas notre église, c'est la tienne. Et Seigneur, c'est toi qui vas l'utiliser, comme tu l'as déjà fait dans le passé, avec, Seigneur, une génération qui se lève. Seigneur, c'est vrai que nous avons tendance, comme l'a dit Édouard, à peut-être vouloir garder notre pureté comme les bourgeois veulent le faire. Mais Seigneur, ce n'est pas ton plan. Ton plan, c'est que nous puissions nous exposer, nous responsabiliser pour, Seigneur, entrer dans l'action, la mission, Seigneur. Cette mission que tu as donnée à tes disciples que nous sommes, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Non pas pour annoncer, Seigneur, ce que nous sommes parfaits, mais annoncer, Seigneur, que toi tu viens pour sauver et ce qui est perdu, pour chercher la brebis qui est égarée. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, tu entends cette prière ce matin alors que nous sommes debout devant toi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur tel que nous l'avons entendu ce matin dans des dispositions nouvelles pour pouvoir marcher avec toi, Seigneur, dans la voie que tu as préparée pour cette église, Seigneur. Nous te remercions et nous te louons pour ta parole qui nous a été apportée, que nous puissions la mettre en pratique, et qu'ainsi, Seigneur, notre maison soit construite sur le roc, non pas sur le sable, parce que nous allons la mettre en pratique, et que, Seigneur, toute cette parole qui a été prononcée puisse, Seigneur, nous aider à marcher en nouveauté de vie, selon toi, selon ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.